la pause maternelle. Bonjour et bienvenue, dans la pause maternelle sur Macalane. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Cette émission est destinée aux mamans pour parler sans tabou de sujets en lien avec la maternité qui peuvent toutes nous toucher. Le but de cette émission est de recevoir des mamans pour leur permettre de témoigner de leur maternité et de se libérer de leur vécu. Chaque mois, nous recueillons le témoignage d'une maman en direct ou de manière anonyme et nous échangeons avec elle autour de son expérience. Je me présente, je suis Élodie, je suis doula et fondatrice de Doucela et je suis accompagnée de Lucille, musicothérapeute clinicienne du cabinet Laissons Naissance. Bonjour Lucille, comment ça va aujourd'hui ?
Eh bien écoute, ça va très très bien, c'est la reprise, hein. Donc si on cafouille, farfouille au niveau des langues et compagnie, et que, bref, vous voyez, c'est nature peinture, donc on va faire comme on peut, mais on est très contente de vous revoir, ou en tout cas de vous réécouter à distance pour cette émission. J'espère que votre été s'est bien passé, et donc aujourd'hui on reçoit Alison, qui a souhaité témoigner sur la différence entre ces deux accouchements avec un passage par la néonate pour son premier enfant. Bonjour Alison, comment vas-tu ?
Bonjour Lucille, bonjour Élodie. Je vais très bien, un peu d'appréhension, mais ça va bien se passer.
Oui, ça va bien se passer, c'est détendu chez nous.
Oui, c'est détente, on discute, ça va bien se passer. Écoute, est-ce que tu veux déjà commencer par nous raconter un petit bout de ton histoire pour qu'on puisse comprendre un peu la mise en place du décor ? Voilà, explique-nous.
Ok, alors, Alison, je suis née ici en France, je suis l'aînée d'une fratrie. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme indication pour vous donner le décor ? Comment j'en suis arrivée à devenir mère, tout simplement. J'ai rencontré mon mari il y a maintenant bientôt 19 ans. Le temps passe. il y a bientôt 19 ans. Et on s'est donc rencontrés, mariés, et puis quelques années après, on a décidé de fonder notre famille, ou du moins de l'agrandir. Voilà pour ce qui est de mon contexte familial. Je suis allée très rapidement, mais un peu le contexte, voilà.
Ok, merci Alison. Et du coup, est-ce que tu veux qu'on embraye sur tes premiers pas dans la maternité ?
Oui, bien sûr, allons-y. Alors, une des choses que je trouve super importante, c'est que avant de réellement, entre guillemets, sentir dans mon corps que je voulais avoir un bébé au départ, j'étais incapable d'approcher les bébés. C'était vraiment, j'en avais peur, j'avais peur de les, entre guillemets, de les casser, on va dire ça comme ça.
La fragilité des bébés peut faire peur.
Oui, c'est vrai. Et j'avais beaucoup d'appréhension au fait de toucher les bébés des autres. J'avais vraiment très peur jusqu'au moment où, entre guillemets, j'ai eu le feu vert dans mon corps. Et du coup, c'est bon, ça a été. Et de là, oui.
Qu'est-ce que tu appelles feu vert dans ton corps ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ?
Bah, je pense que le moment où je me suis sentie prête en fait pour cette prochaine étape et je pense que c'est ça. C'est que dans mon corps, je me suis moi-même donné le feu vert d'être mère et du coup, ça a rendu beaucoup plus facile par la suite du coup d'approcher les bébés. C'est comme si maintenant j'étais apte. Je ne sais pas si ça a du sens, alors que je n'avais pas encore de bébé, mais maintenant, je pouvais le faire.
Tu t'es donné le droit d'être maman, en fait, d'avoir cette place-là, ouais, de maman à un moment donné.
Mais, c'est ça.
Parce qu'avant, tu ne te sentais pas d'être véritablement une maman, voire peut-être adulte, non, tout simplement.
Peut-être aussi. Mais vraiment, maman, oui. Maman, oui. Adulte, je ne sais pas. Mais maman, oui.
Et dans ton corps, est-ce que tu saurais nous dire ce que tu as ressenti du coup à ce moment-là?
En fait, c'est plus quand j'ai été en contact avec une maman du coup qui venait d'avoir son enfant, j'étais beaucoup plus tranquillisée. J'avais plus de crainte en fait. J'étais plus du tout dans la peur de le casser, comme je disais tout à l'heure. Ouais.
T'as ressenti de l'apaisement ?
Voilà, c'était okay, en fait, d'y aller, de le prendre, ce bébé, même si c'était pas le mien. Enfin, voilà, c'était ok de le faire. Et je me sentais, entre guillemets, même moi-même, suffisamment sécure pour sécuriser cet enfant.
Ah, c'est intéressant ce que tu dis sur la sécurité, sur le fait de se sentir soi-même assez sécure. Donc il y a une question d'ancrage aussi là-dedans, oui. De se dire je suis capable, ça réveille quand même. On a tendance à le dire, ça, que ça réveille pas mal de choses d'avoir des enfants ou alors d'être au contact des enfants, qu'ils ont ce petit truc qui des fois nous chahute à l'intérieur et qui fait qu'on se dit je me sens ou je me sens pas. Et qu'est-ce que ça... Au-delà du fait de les casser, qu'est-ce que c'était pour toi ? Est-ce que ça réveillait d'autres images, tu vois ? Genre, est-ce qu'on t'a déjà dit qu'un enfant, c'était vraiment fragile ? Enfin, en tout cas, un bébé, c'était vraiment fragile, il ne fallait pas le toucher. Enfin, tu vois, parce que c'est le genre de choses qu'on peut des fois dire à un plus petit en disant « Non, mais t'approches pas parce que les bébés, c'est fragile, fais attention à sa tête, fais attention à tel truc. » Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions qui font qu'on peut les enregistrer et à l'âge adulte se dire « Non, mais en fait... les petites choses, là, je ne vais pas la toucher, sinon elle va casser. »
Alors, c'est fort possible. Disons que le dernier bébé que j'avais eu dans mon entourage très proche, c'était mon petit frère. On a 16 ans de différence. Du coup, enfin, lui, je l'ai vraiment vu tout petit. dans toutes les phases. Et je pense que oui, ma mère m'a dit ça, mais je crois pas que ça vienne de là.
Ah, tu avais déjà 16 ans, donc là c'était encore autre chose.
Voilà, voilà. Mais entre les deux, dans la vingtaine, j'ai pas été forcément en contact avec des bébés. C'est un peu plus tard, parce que j'ai eu ma fille, j'avais 26 ans. Donc dans le début de ma vingtaine, j'étais pas forcément entourée d'enfants. C'est plus tard, mais. Je me souviens pas de paroles, enfin si, oui, attention, les bébés, c'est fragile, il faut tenir leur tête, etc. Ce genre de discours, oui, bien sûr, sur il faut bien les tenir pour pas les mettre dans un inconfort ou faire attention en fait à leur cou, à leur tête, etc. Oui, on m'a déjà donné ce genre de paroles, mais j'ai pas eu l'impression, en tout cas. Maintenant, je n'ai pas eu l'impression que ça m'avait freiné en fait ou retenu d'une quelque façon que ce soit. C'est vraiment, je sais pas. Enfin, comme je vous ai dit, pour moi c'était maintenant ça y est, c'est ok. Genre je suis bien. Comme si j'étais centrée à l'intérieur de moi-même et du coup c'était ok, je pouvais y aller.
Tu te sentais ancrée à ce moment-là, en fait. Voilà, l'ancrage et le fait de se sentir, d'avoir peut-être déjà passé une partie de ta vingtaine à te construire déjà toi-même et du coup à avoir cette possibilité, ce tiroir qui s'ouvre dans ton corps et dans ton cerveau et qui fait ok, sans vouloir désolidariser le cerveau du corps, bien sûr, mais en tout cas, ce tiroir général qui s'ouvre et qui dit « Ok, si, ça peut être quelque chose que j'envisage, en tout cas. »
Exactement.
Mais je dis souvent que être mère, ce n'est pas à partir du moment où le bébé s'est implanté dans le ventre de la mère. Être mère, ça commence même avant. Et là, de ce que tu nous racontes, ça témoigne de ça au final, que voilà, enfin, on se prépare à être mère.
C'est pleinement la transparence psychique, quoi, le truc où en fait, dès la préconception, dès même imaginer, il y a déjà les hormones qui se mettent en branle,
il y a déjà l'imaginaire,
il y a déjà une préparation mentale.
Il y a des choses qui se transforment déjà.
On parle souvent de la grossesse comme un marathon, mais c'est un peu ça, en fait. Il y a déjà une préparation mentale, une visualisation de l'état d'être mère. Il y a déjà des choses qui chamboulent, qui chahutent, des changements de place qui se font, ne serait-ce que par la pensée, hein. C'est pour ça qu'on est souvent sur ce truc, quand on veut, on peut, ou ce genre de choses de visualisation. Mais en fait, c'est réellement un marathon que le corps met tout simplement en place tranquillement. Ouais.
Après, cette visualisation, elle permet aussi de faire ressortir certaines émotions qu'on pourra vivre à ce moment-là, comme les peurs, la joie. Enfin, on ne va pas faire le tour des émotions, hein, on les connaît, mais... Ça permet de commencer à appréhender les potentielles émotions qui pourraient ressortir au moment où on va apprendre qu'on
est enceinte. Et les souvenirs et tout ça. Mais alors, du coup, comment ça s'est passé pour toi ?
Raconte-moi.
Alors, j'ai arrêté ma contraception et je suis tombée enceinte relativement vite, peut-être même pas 6 mois après, sachant que j'étais sous contraception depuis au moins mes 18-19 ans. Donc moi, j'ai trouvé que c'était hyper rapide. J'avais beaucoup d'appréhension. Parce qu'on nous disait beaucoup, quand tu as pris la pilule pendant X années et tout, ça dérègle le corps. Il est possible que tu mettes vachement de temps avant de tomber enceinte, etc. Mais en fait, non, ça a été rapide.
Je me permets de te couper parce que je trouve que c'est très intéressant le fait que tu dises que pour toi, tu es tombée enceinte très rapidement, alors que tu nous parles de 6 mois. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent au bout de 6 mois qu'ils ne sont toujours pas enceintes et qui trouvent ça long. Et du coup, je trouve ça très intéressant de montrer comme chacune s'approprie le temps, en fait.
Chacune sa temporalité, effectivement.
Exactement. Ouais. Et ça montre aussi que est-ce que ce temps-là n'est pas aussi nécessaire pour se préparer psychologiquement aussi ?
Oui, je pense qu'il y a de ça. Et puis... moi, je l'ai vraiment vu comme, avec la contraception, le corps avait, entre guillemets, certaines habitudes, je vais dire ça comme ça. Et donc, il lui faut aussi le temps de retirer ces habitudes pour revenir à ce qui est normalement normal. Et puis, retrouver son propre rythme. Et puis, quand il est bien... entre guillemets, sur sa temporalité, sur son tempo, dans ces cas-là, oui, il est en capacité de, et sans compter l'environnement extérieur, mental, etc., etc., bien sûr. Hein. Mais oui, moi, j'ai vu ça comme ça. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai senti très rapidement que j'étais enceinte. C'est assez marrant parce que... Et ça m'a fait ça aussi avec ma deuxième grossesse, c'est pareil. J'ai ressenti très vite dans mon corps comme des petites... moi, j'appelais ça des bulles. Je sais pas, il y avait des trucs... Il y avait des trucs qui se passaient dans mon corps et c'était pas comme d'habitude.
c'est chouette que tu nous témoignes parce que... De montrer aussi que oui, on peut ressentir, avant même de faire un quelconque test, on peut ressentir qu'on est enceinte. Alors évidemment, c'est pas le cas pour toutes les femmes et c'est ok, mais ça peut exister.
Il y a une forme peut-être de sensibilité, d'ultra-sensibilité aussi sur tes ressentis, sur la manière de justement de ressentir ton corps et puis de lui laisser le temps. Moi, je trouve que c'est assez génial la manière dont tu décris. Effectivement, je reviens sur la temporalité, mais parce que tu décris les trois dimensions de la temporalité, que ce soit dans la maternité ou alors la manière que le corps a de répondre physiologiquement en fait aux choses. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que différentes phases de la vie, y compris la naissance, notamment la naissance, c'est un processus biopsychosocial, c'est-à-dire biologique. Donc là, tu nous as parlé de l'arrêt de ta pilule, des hormones et tout ça, des choses qui avaient besoin de prendre leur temps pour revenir à la, entre guillemets, normalité. Psychologique, dans le sens où c'est quelque chose que tu avais anticipé. Donc on voit à quel point le psychologique peut venir en amont même et soutenir le biologique. Et puis après, c'est social, dans le sens où comment toi, tu as commencé à ressentir les choses dans ton corps. Enfin, on voit comment les choses sont intriquées à la fois dans la tête, dans le corps et au niveau de l'entourage. Donc là, on arrive un peu sur l'entourage proche, hein, c'est-à-dire ton propre corps, et avec les petites bulles. Et ensuite, comment est-ce que tu as envisagé de le dire peut-être aux autres ? Est-ce que tu l'as dit tout de suite ? Comment ça s'est passé, en fait, cette nouvelle ?
Alors, moi, j'en ai parlé à mon mari parce que je trouvais, enfin, je dis, ah, je sens des trucs et tout dans mon ventre. Nanana. Et du coup, j'ai été acheter le test et j'ai fait le test. Beaucoup de stress, moi seule dans les toilettes. Et puis,
toutes les femmes te comprendront.
Et franchement, c'est un rendez-vous qui est très, très, très intimidant.
Oui. Exactement. Beaucoup de stress seule, moi, dans les toilettes. Et puis du coup, quand j'ai vu, alors, je ne sais pas si on peut dire des marques, mais le test de grossesse qui m'a donné le nombre de semaines. Je me suis dit waouh, genre ce que j'ai senti en fait c'est réel,
oui.
Genre ça y est,
ça concrétise.
Exactement. Puis du coup je l'ai dit à mon mari qui était très très heureux et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai attendu un petit peu, mais je pense que très rapidement j'en ai parlé à ma mère, à ma sœur. Et ensuite, c'était « il ne faut pas en parler avant que tu sois à 3 mois ». Voilà, c'était très, c'est très codifié.
Il y a un petit truc ritualisé parce qu'il ne faut pas le dire tout de suite, parce que si tu le dis tout de suite, peut-être que ça peut faire disparaître la petite chose qui est en train de pousser dans ton ventre. Et c'est très grande appréhension. Comme si le fait juste de le dire, ça pouvait, je sais pas, peut-être porter malheur ou tu sais, créer une trop grande joie d'un coup et c'est après ça. Une très grande déception.
Et puis après, il y a aussi le fait que si jamais il se passe quelque chose, va falloir annoncer à toutes les personnes à qui on a annoncé qu'on était ensemble que en fait la grossesse n'ira pas au bout. Et
ça, je trouve ça toujours particulier. Pourquoi est-ce que du coup, la personne qui finalement se retrouve endeuillée doit se sentir obligée d'aller prévenir toute la tsmala que du coup, en fait, à ce moment-là, moi, je trouve que c'est encore plus fort et beaucoup plus intéressant de le dire, d'exprimer sa joie d'être enceinte ou alors sa non-joie d'être enceinte, parce que ça peut aussi arriver. On a eu des témoignages où elles n'étaient pas heureuses d'être enceintes et ça arrive. Juste de le partager à son entourage pour renforcer le lien humain, parce que quoi qu'il arrive, eh ben, y a des personnes autour qui peuvent être là pour soutenir et qui ont suivi les différentes phases et qui nous connaissent en fait.
Ouais.
Donc ce truc-là très codifié, je trouve qu'il est très prenant déjà mentalement, alors que franchement déjà, enfin bref, les dernières études en parlent aussi hein, sur le cerveau qui peut plus ou moins rétrécir lorsque du coup tu tombes enceinte et puis de toute façon il y a beaucoup de choses.
Les neurones qui disparaissent aussi.
Les neurones qui disparaissent, mon Dieu, enfin bref, il y en a qu'une sur deux qui s'allument, tu fais « oh mon Dieu ». Et voilà, donc il y a déjà beaucoup de choses à gérer à ce niveau-là, donc je trouve qu'on... On a tendance à reléguer de côté, à mettre de côté le lien humain. Oui, ça y est, je suis de retour à l'antenne et je vous reparle de lien humain. Je m'en fiche, j'en parlerai à chaque émission. Mais n'empêche que c'est vrai que le lien humain, c'est important. Et dans toutes ces différentes phases de naissance, vie et mort, eh bien, c'est important d'avoir un groupe qui nous soutient socialement, psychologiquement, émotionnellement, parce que ça aide aussi à une certaine forme de cicatrisation, quelle que soit l'issue de la grossesse. C'est-à-dire que même si ça a été bien, mais qu'après on est en mode un peu baby blues, voire plus, eh bien, on a quelqu'un qui nous soutient. Si c'est dur à un moment donné parce qu'on a les nausées ou parce qu'on est fatigué, on a des personnes qui sont là pour nous soutenir. Si ça, y a une issue, malheureusement, qui est fatale, que ce soit pour la mère ou pour le bébé, et ben en fait, il y a toujours quelqu'un pour soutenir la personne qui reste. Et c'est important, ça, c'est ce qu'on a perdu dans notre côté un petit peu individualiste. On peut avoir perdu un peu ce lien-là. Ouais. Et au-delà des rendez-vous médicaux, c'est important d'avoir ce lien et de le favoriser, le lien social. J'ai fini.
Et puis, c'est à mon tour. On est bavardes aujourd'hui. Hein.
Une heure d'antenne.
je dirais même que c'est déjà une certaine pression maternelle, je trouve, de se dire « j'ai envie de l'annoncer à tout le monde parce que je suis trop heureuse ». Mais en même temps, il ne faut pas que je l'annonce parce que je ne suis pas à 3 mois, parce que si, parce que ça. Alors que je trouve que cette émotion-là, on l'a que pour une première grossesse où on se dit « je suis trop contente, je vais l'annoncer à tout le monde, mais j'ai peur ». Mais en même temps, c'est aussi une manière de légitimiser cette grossesse-là, aussi précoce soit-il. et la faire vivre. Et au cas où, enfin, pas au cas, le terme n'est pas adapté, mais parce que des fois, les grossesses ne vont pas à terme. Et en fait, ces grossesses-là qui sont arrêtées avant 3 mois, ben, en fait, la société les oublie alors que la mère l'a vécu. Et je trouve que l'annoncer, du coup, de manière précoce, tout de suite, permet aussi de, si la grossesse n'arrive pas au bout, de dire, bah, en fait, elle a existé, quoi.
Il y a une analyse aussi un peu plus approfondie à avoir là-dessus. C'est aussi au niveau juridique et au niveau de la législation, au niveau du travail aussi. C'est-à-dire que... est considérée comme grossesse à partir de 3 mois, enfin certaines
12 semaines
d'aménorrhée, qui font que du coup là la grossesse existe véritablement. Donc il y a aussi un petit flou qui fait que notre vie d'occidentaux, notre manière de travailler aussi a poussé un petit peu les choses aussi en ce sens-là. Hein, c'est-à-dire que du coup, on ne va pas le dire avant 3 mois, parce qu'il y a aussi une législation. Et puis, il faut le dire aussi, il faut l'avouer, qu'aller le dire à son patron qu'on est enceinte, et puis ça marche, et puis ça ne marche pas. Mais aussi parce qu'arrivé à un certain âge, c'est la première chose qui se pose aussi comme question. Il faut aussi être aussi réaliste. Du coup, bah, aller le dire à ton patron, une chance sur deux où tu n'es pas sûre de pouvoir être recasée, entre guillemets, dans ton travail. Ouais. Moi, je sais que pour les 4 grossesses, je l'ai ressenti pour mes 2 premiers dans le cadre du travail salarié et que j'étais très contente pour mes 2 derniers que ça se fasse hors cadre salarial et que ce soit moi, mon propre patron. J'avais juste à m'envoyer ma lettre recommandée à moi-même. Du coup, je trouvais ça assez agréable. Donc, je pense qu'il y a tout ce code-là est mélangé. Enfin, encore une fois, le social et la spiritualisée de la naissance. Donc, est-ce que pour toi, c'était ça aussi, Alison, à ce niveau-là ?
Alors, dans mon entourage, c'était plus le côté, à mon avis, hein, de ce que j'en perçois. Alors, il y a le truc de « Ah, on ne sait pas, ça pourrait, entre guillemets, te porter malheur, si jamais t'en parles avant les 3 mois. » Voilà, je pense qu'il y a ce côté-là. Et puis, il y a effectivement, enfin, au travail, on n'en parle pas avant que ce soit vraiment, entre guillemets, réel, même si ça l'est déjà. Parce que, et puis, enfin, je ne sais pas pour les expériences des autres, et, ni de vous, mais moi, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte à mon travail, ça a été super dur. Hein.
Ah oui?
C'était très compliqué. Ouais, parce que mon employeur, en fait, je travaillais dans un tour opérateur à l'époque. Et alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, non.
Explique-nous.
Ok. Un tour opérateur, en fait, vous avez les agences de voyage. Vous allez voir une conseillère qui vous vend le voyage. Et le tour opérateur, c'est celui qui crée le voyage.
Ok.
En gros, c'est ça, pour simplifier. Et je travaillais chez un petit tour opérateur où on n'était même pas une dizaine, en fait, dans la boîte. Et du coup, c'était vraiment, ça a vraiment été perçu comme si je l'ai laissé tomber, en fait.
Une espèce de trahison.
Ouais.
Qui apporte de la culpabilité. On te met sur le dos une certaine culpabilité.
Tout à fait. Et du coup, ça a été... pour moi, ça a été super dur, ouais. Ça n'a pas été facile, cette période. Sans compter les premiers mois avec les nausées, la fatigue. Je rentrais à la maison, j'étais comme un cachalot échoué sur mon canapé. C'était un peu ça.
Très belle image.
Oui, mais c'est tellement vrai.
C'est tellement vrai. Il faut le dire. Il faut le dire. L'émission existe pour ça. Il faut qu'on dise un peu.
C'est OK d'être un cachalot échoué sur son canapé.
Une énorme baleine. Je veux dire, à un moment donné, t'as aucune envie, quoi.
Exactement. Tout à fait. Et du coup, les 3 premiers mois, beaucoup de nausées. C'est bon. C'était pas super aisé. Ensuite, les 3 mois suivants, en plus, j'étais sur les mois d'été, c'était trop bien, je mangeais plein de fruits. Enfin, je me souviens, c'est une époque où j'ai mangé beaucoup d'ananas, de melon, de pastèques.
On sent encore dans ta voix que c'est quelque chose qui te délectait.
Oui, mais oui, en fait, il y avait... un goût particulier. Et puis comme on était en été, en fait, je pouvais en manger tout le temps. Donc c'était pas problématique, c'était vraiment cool.
Il y a un truc libérateur quand même, oui. Même au niveau de la nourriture, lorsque ouais. Du coup tu tombes enceinte, parce que, enfin tu tombes enceinte, lorsque tu es enceinte à un moment donné, ouais. de pouvoir te lâcher un peu sur la nourriture, on est d'accord?
Ah mais c'est dingue, hein, encore une certaine pression.
Ça fait péter les injonctions, ouais. De se dire, là je m'en fiche, si je grossis, on dirait oui, que c'est pour le bébé.
Oui mais attention parce qu'il ne faut pas trop grossir non plus, on te dira.
Moi je taillais comme une biscotte, on s'en fichait quoi, tu vois, c'était genre...
Non, mais il faut respecter les normes. 1 kilo par mois les 6 premiers mois. Et puis après, je ne m'en rappelle plus. J'ai plus les chiffres en tête parce que ça ne m'intéresse pas. Mais il faut respecter quand même les normes.
Jamais tenu une norme. Je vous le dis officiellement, ça va énerver des gens. Pour la première, j'ai pris 35 kilos.
Ok.
Oh, bah, ça okay. Va, non. Mais enfin, c'est quoi cette réaction, Alison? Oui, j'ai pris 35 kilos.
C'est très bien.
Et ça m'allait très bien. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait exprès de prendre 35 kilos. Mon corps a pris 35 kilos et je les ai reperdus après. On choisit pas non plus dans la temporalité. Il y a des kilos que j'aurais bien voulu garder un petit peu. Bon, ben, ils sont pas restés avec moi d'un commun accord avec eux-mêmes. Ils sont partis. Donc, à un moment donné, voilà, on ne décide pas de ce genre de choses. Donc, on fait du mieux qu'on peut. Et si on a faim, on a faim. Voilà.
Et si on doit prendre du poids, on prendra du poids, peu importe ce qu'on fait. Et si on prend pas de poids, ben, on prendra pas de poids.
Sans pathologie type diabète, oui. Ou quoi que ce soit. Là, on parle bien de juste, voilà, d'être
une grossesse physiologique.
Exactement. Donc, bon, toi, tu as mangé du melon. Ça n'engraisse pas trop le melon, non, et la pastèque, va. Et l'ananas. Hein,
alors, tu sais quoi, moi, j'étais suivie par une sage-femme.
Ouais.
Et en fait, on faisait quand même pas mal attention à mon poids parce que à l'époque, j'étais déjà en surpoids. Je faisais à peu près 100 kilos, un peu moins, enfin, autour de ça. Et du coup, l'idée, c'était de faire vachement attention pour pas que je prenne trop de poids, parce qu'ils avaient peur que je passe éventuellement du diabète de grossesse, etc., machin, truc. D'ailleurs, on m'avait dit, vous avez de la chance quand même, avec le poids que vous aviez, de tomber enceinte si vite.
Ce genre de discours.
Non mais bon, bref. Et du coup, la grossesse se passe, on arrive, mon premier bébé est un bébé d'hiver, puisqu'elle est née au mois de novembre. Fin de grossesse plutôt bien, parce que, si je me souviens bien, quand j'ai fait ma visite des 8 mois, j'avais déjà le col qui commençait à s'ouvrir, parce que là où j'allais au travail, il y avait beaucoup d'escaliers. Donc, j'ai pas mal travaillé et je skip plein de parties pour arriver au moment de l'accouchement. Alors, je me souviendrai toujours parce que je pense que rien ne se fait par hasard. Ma fille est arrivée plus tôt que prévu, mais dans certaines conditions toutes particulières.
Alors, on va mettre 3 petits points et on va se mettre un petit coup de Rihanna avec Lift Me Up pour faire une pause musicale au milieu, reposer les oreilles de nos auditeurs et ensuite revenir avec toi pour que tu nous expliques justement la suite après les 3 petits points.
Très bien.
Are you ready? C'est parti.
Yes.
À tout à l'heure. Close.
écouté la pause maternelle sur Calade, votre rendez-vous maternité mensuel tous les premiers lundis du mois. Nous sommes avec Alison qui nous raconte, qui nous témoigne de sa maternité. Et avant la pause, elle s'apprêtait à nous raconter la naissance de son premier enfant.
On en était aux trois petits points. Aux Vas-y, trois petits Alison.
Du coup, je m'en souviens très très fort parce que la veille, il s'avère qu'on avait été chez des amis et je me souviens que j'avais mangé du KFC épicé. Alors qu'en général, je ne mange pas épicé.
Alors, je suis désolée Alison, je suis obligée de te couper. C'est dommage, vous n'avez pas les images. Il fallait voir la tête de Lucille quand tu as annoncé un KFC épicé.
Ah bon?
Écoute, c'était... je ne m'attendais pas à ça.
Ah, d'accord. Moi, ça va me faire rassurer.
Si ça peut te rassurer, moi, j'étais du genre à manger friterie et tartiflette la veille d'accoucher. Hein.
D'accord, ok. On va pas avoir.
Ok, les filles. Ah là là. Donc, du coup, on va passer au drive. Donc, explique-nous la suite.
Il s'avère que... en fin de grossesse, j'avais commencé à faire de la tension, de l'hypertension. Et il m'avait annoncé que j'allais être déclenchée le jour de mon anniversaire, le 12 novembre. Et dans ma tête, je me dis, non, je ne veux pas. Je veux avoir mon jour à moi, je veux pas. Il faut que tu sortes avant ou après, tu te débrouilles. Mais non, mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Donc la veille, je suis avec mon KFC épicé et puis il s'avère qu'on était chez des amis.
Pour faire sortir ta fille, comme on bute en touche, on met un coup dans une bouteille de ketchup à l'arrière, quoi, juste avec des épices.
Exactement, tout à fait.
Moi, j'ai sauté sur une rambarde et j'ai joué du tuba pour essayer de faire sortir ma fille à un moment donné. Voilà. Donc, je ne juge pas. C'est juste, je n'imaginais pas le KFC, ou en tout cas, je comprends le pourquoi du comment.
Mais du coup, on rentre à la maison et puis, en fait, je commence à sentir des contractions. Et comme on était rentré tard, puisque bon, bah, c'était pas prévu pour tout de suite, donc j'avais encore un peu de temps. Je rentre à la maison, mon mari va se coucher, et puis moi, je commence à sentir qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de moi, je me dis, waouh. Et comme j'avais commencé à avoir des contractions de Braxton X, je me dis, bon, je fais rien. Mais là, je vois, ça continue. Du coup, je sors mon téléphone, j'avais ma petite application, voilà, qui disait chaque semaine où est-ce que j'en étais, blablabla, truc. Et il y avait une partie où on pouvait se chronométrer pour voir à quel moment arrivent toutes les contractions. Donc au début, je suis seule avec mes contractions et mon appli et mon téléphone.
Alors, moi, c'est le genre d'application que je déconseille aux mamans parce que je trouve que je trouve que ça met une certaine pression. C'est, je sais pas, ça crée quelque chose de...
Un monitoring, un automotive monitoring, en fait.
Alors qu'en fait, on sent, on n'a même pas besoin de des applications, on sent ce qui se passe dans notre corps.
Après, toi, c'est la première, tu avais aussi envie de te sentir rassurée.
Ça peut rassurer.
Je pense qu'on crée notre cocon comme on a envie de le créer aussi. Oui. Et que là, elle avait besoin de son téléphone avec l'application. Écoute, chacun son truc. Moi, j'avais besoin de Ed Sheeran juste à côté de moi. Il n'était pas là, visiblement. Donc, tu vois... Chacun son truc, quoi. Donc, il y a l'appli. Enfin, voilà, je pense que pour pas que vous soyez culpabilisés, mettez ce que vous pouvez, ce que vous voulez, comme vous pouvez. Parce qu'à ce moment-là, de toute façon, le monde tourne d'une certaine manière, presque s'arrête. Et donc, voilà. Vas-y, Alison, on te laisse poursuivre. On est dissipés ce matin.
Non, mais tout va bien. En fait, donc, je mets l'application pour m'assurer, entre guillemets, que... Ben oui, je respecte bien les 2 heures de contraction à un certain intervalle avant d'aller à l'hôpital. Parce que voilà, je voulais m'assurer d'être vraiment entre guillemets dans le vrai avant de venir. Je me souviens que j'ai pris une douche parce que j'étais vraiment fatiguée, j'avais besoin de me sentir propre et à ce moment-là, j'ai vu le bouchon qui est sorti. Donc je me suis dit, ok,
Donc là, on parle du bouchon muqueux, hein. On soit bien d'accord pour celles qui écoutent mais qui ne sont pas maman ou qui n'ont pas eu ça. Voilà, le bouchon muqueux, c'est ce qui fait...
C'est une espèce de glaire qui vient boucher en fait, le col. Et en général, quand on le perd, c'est parce que le col il est en train de bouger. Donc voilà, c'est un signe annonciateur, mais pas forcément dans l'immédiat. On peut perdre le bouchon muqueux quelques jours, quelques semaines avant qu'on accouche.
C'est ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai réveillé mon mari. Et puis, tout s'est accéléré parce qu'à l'époque, on n'avait pas de voiture. Donc, il a fallu appeler un taxi pour se dépêcher d'aller à la maternité, etc. Et arrivé à la maternité, on m'a dit, du coup, que j'étais ouverte, il me semble, à 6.
Ah oui, bon score.
Oui. Ça a bien travaillé, hein.
T'as bien attendu et tout. Hein,
comme quoi, les deux heures de travail avant d'aller à la maternité, faut faire attention quand même.
Hein. et puis, donc, arrivée à la maternité, j'étais au départ persuadée. Je me dis, non, je veux pas de péridurale, machin. Mais en fait, non, Alison, elle a pris sa péridurale.
Elle a pris sa péridurale, son petit cachet, puis c'est tout. Hein.
Voilà, c'était ça.
Et c'est ce dont tu avais besoin à ce moment-là, et c'est OK.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'anesthésiste, il a dû s'y reprendre à deux ou trois fois, d'ailleurs, pour me piquer. Il me dit, mais madame, baissez-vous. Je dis, oui, c'est ce que je suis en train de faire. En fait, je fais pas exprès. Mais et c'est là où...
Va demander à une boule de se mettre en boule. Moi, ça m'a toujours fait cet effet-là. Mais tu veux que j'aille jusqu'où? Il y a un truc devant. Pas possible.
Mais alors il y a de ça et vraiment je me suis posé la question, est-ce que le fait que, parce que en gros en tout durant ma grossesse j'ai pris 20 kilos et donc je me suis réellement posé la question, est-ce que le fait d'être en surpoids c'était pas encore vous voyez, quelque chose qui gênait en fait le fait que je me mette dans la bonne position pour qu'il puisse mettre son aiguille dans mon dos là. Et une fois que j'ai eu l'aiguille dans le dos, en fait tout s'est ralenti. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures dans cette salle avec les sages-femmes qui faisaient des allers-retours, etc.
Alors, je me permets de te couper,
oui,
juste pour expliquer que c'est un des phénomènes qui peut se passer avec la péridurale et que l'anesthésiste n'explique pas. Soit ça peut ralentir le travail, ou... Dans certains cas, ça accélère le travail parce qu'en fait, ça détend tellement la maman que du coup, tout son corps est détendu, le périnée est détendu et tout s'ouvre. Mais souvent, ça ralentit le travail.
Moi, c'est ce que je leur dis. Hein. Prenez quand même des crackers, des trucs comme ça, amenez-vous des livres parce que cette partie-là, cette phase-là du travail, d'où le côté marathon, c'est aussi marathon psychologique. Ouais. C'est qu'en fait, on est tellement dans l'attente. Mais ça, c'est aussi, je pense, une partie de la faute des films et des choses comme ça. Où en fait, ils ne peuvent pas montrer toutes les phases différentes de l'accouchement. Mais la phase où on s'embête. Où en fait, là, ça y est, il n'y a rien.
Ouais.
On attend. On attend que ça se passe, on attend que le bébé arrive, on nous dit ça va arriver et où on voit tout un balai de professionnels autour de soi et nous, on s'embête un peu. Quoi.
Dans les films, on voit aussi la femme perd les os et pouf, elle accouche.
C'est incroyable, elle éternue, elle a son bébé comme ça. Ça arrive.
Moi, je n'ai pas perdu les os.
Et oui, voilà.
J'ai pas perdu les os.
Souvent, on ne perd pas les os.
C'est eux qui ont rompu la poche des os. Et je me souviens, alors c'est à partir de là où les choses commencent à se corser parce qu'on dit, on a rompu la poche des os et en fait c'est vert.
Ah.
Et je fais, ouais. On me dit, voilà, votre fille a fait ses premières selles dans mon ventre. Et du coup, ce qui va se passer, donc la sage-femme, vraiment, de ce côté-là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de personnes qui... en tout cas, les sages-femmes étaient très présentes. Elles prenaient le temps de m'expliquer, etc. Et elles m'ont dit, lorsqu'on va la faire sortir, on ne va pas la faire crier parce qu'elle pourrait inhaler le méconium. Et donc, on va éviter de la faire crier et on va la prendre tout de suite.
Voilà, le méconium étant la première partie des selles. Hein,
les premières selles.
Ce qui sort chez le bébé. Je dis ça pour les premières mamans ou celles qui sont enceintes actuellement et qui ne sont pas encore tout à fait au courant de tout ça. Donc le fait que ce soit vert à l'intérieur et que les selles soient. Enfin, que ce soit. Le liquide soit vert, c'est le méconium. Et donc ça, c'est le premier caca.
Et un bébé qui fait du méconium dans le ventre de la maman, c'est un bébé qui a vécu un stress au moment de l'accouchement.
Ah. Ouais. Ah, ça, je savais pas. Ok. Intéressant. Ok, bah, je ne savais pas. Merci pour cette information presque 12 ans plus tard. et du coup, je me souviens aussi, donc après avoir rompu la poche des os, donc pareil, il y a encore eu un peu d'attente. Et mon mari faisait des allers-retours avec la salle d'attente parce qu'il y avait nos familles qui étaient en bas. Tout le monde s'est réuni d'ailleurs pour la naissance de ma première fille qui était très très beau. Et au moment où les choses s'accélèrent et il faut la faire sortir, moi j'arrêtais pas de dire je veux que ce soit un accouchement naturel, je veux pas qu'on utilise les forceps ou je sais quoi. Je disais non, je veux pas ça, je veux qu'elle sorte toute seule et tout. Non, je veux pas qu'on tire parce que j'avais vu en fait des vidéos où il y en a, ils utilisaient comme des espèces de bras, là, je sais pas c'est quoi. Ceux où ils tiraient le bras de l'enfant et puis quand il sort à la naissance, son
c'est
bras...
C'est très impressionnant, fait, effectivement.
Voilà. Oui. Ou même la forme de la tête et tout. J'étais là, je dis non, je veux pas ça, je veux pas ça. Et pendant toute la phase, vraiment, où il fallait que je pousse, j'étais extrêmement fatiguée. Ça faisait des heures que j'étais là. Parce que ma fille, elle est née à 5h du matin.
Oui.
Et moi, je suis partie de chez moi. Il était 22h, 23h, un truc comme ça. Donc, tout le temps passé à la maternité. Et j'étais épuisée. La dame, elle m'a dit, écoutez, madame, vous m'avez dit, vous voulez qu'il sorte naturellement, il va falloir le faire, parce que sinon, je vais devoir appeler le gynécologue, le petit Christian. Il va venir, il va faire. J'étais là, non, je ne veux pas. Mais c'était fou.
Oui, c'est que c'est là tu te retrouves dans une situation qui est plus que folle, qui est aussi encore plus stressante. Donc en fait, ça te fait sécréter en fait aussi de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ouais. Et donc ça, pour vraiment l'expliquer, lorsque tu sécrètes ce genre d'hormones, eh ben en fait ça bloque les hormones qui sont aussi favorables au fait que tu te détendes. Ça c'est bien évident, mais aussi que ça puisse.
Bah, et puis, du coup,
tu te tends en fait. Des fois, t'as même le col qui peut se recontracter dans l'autre sens et pas laisser sortir parce que du coup tu es voilà, on est des animaux, donc à un moment donné s'il faut fuir, on me dit ok d'accord, mais il y a un danger potentiel, soit tu lâches le bébé d'un coup, ça c'est déjà vu aussi, soit clac tu refermes et là du coup c'est difficile et c'est là qu'on peut avoir les conséquences sur les forceps et compagnie
et la césarienne
d'urgence, parce qu'effectivement ça peut mettre en danger la vie de l'un ou de l'autre.
Mais du coup je réussis. Je l'ai fait sortir chez moi, naturellement. et du coup, dès qu'ils l'ont sorti, il y a vraiment eu ce... Même si elle m'avait prévenu qu'elle n'allait pas faire de bruit, il y a vraiment ce temps de silence qui est hyper...
Pesant.
Ouais. Vraiment comme un silence de mort, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Et on est là et on attend. On attend jusqu'à ce que, je vois ma fille sur le côté, ils sont en train de s'en occuper, etc. Et puis finalement, elle fait un son, et là, on fait, on respire.
Oui.
Je respire, ça y est. Du coup, ils me l'amènent, ils la mettent sur mon mari, et ensuite, ils me disent, on va devoir l'amener en néonate, parce que, en fait, elle a quand même inhalé du méconium et pour elle, on a besoin de l'emmener là-bas.
Ok. Alison, je me permets de te couper parce qu'il va falloir qu'on fasse une petite pause musicale.
Oui.
Et voilà. Et puis on revient après la petite pause pour que tu puisses continuer ton histoire.
Yes.
Some people live afford a fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial.
Nous sommes de retour sur la pause maternelle avec le témoignage d'Alison qui est en train de nous expliquer donc la naissance de sa fille et que sa fille avait inhalé du méconium et qu'elle devait partir en néonate. Je te laisse nous raconter ce qui s'est passé en néonate et les premières heures et les premiers jours après la naissance de ta fille.
Une fois, dès qu'on m'a dit ça, j'ai dit à mon mari de l'accompagner pour pas qu'elle soit seule. Mais du coup, ça a fait que moi, je me suis retrouvée seule dans la chambre. Et ça a été, je me souviens, j'ai pleuré parce que, en fait, tout ce qu'on voit à la télé ou tout ce qu'on s'imagine, là, c'était totalement différent. J'étais seule, j'avais pas de bébé. On m'a ramenée, alors je skip aussi des moments, mais on m'a ramenée dans la chambre. Je me souviens que la première chose qui m'a marquée, c'est qu'il y avait un berceau à côté de moi, mais j'avais pas de bébé. Mmh. Donc, ils sont vite venus le récupérer, mais ça n'empêche que je suis rentrée, il y avait un berceau et j'avais pas de bébé. Et en fait, ma fille, elle est restée en néonate pendant 2 semaines. J'ai pu rester à l'hôpital la première semaine. Et donc, ce que je faisais, c'est que je faisais des allers-retours, en fait, dans la journée, même la nuit, pour aller la voir. J'ai pas pu l'allaiter, je devais tirer mon lait. Et puis, au début, elle avait une machine qui était autant sur son nez que sur sa bouche pour l'aider à respirer. On l'avait pas nettoyée, j'osais même pas la toucher, en fait, parce que... Elle semblait, et pourtant j'étais quasiment à terme, mais elle semblait super fragile, en plus avec ce petit masque. Et puis,
on revient sur la fragilité du départ du témoignage.
Sur tes peurs d'avant-grossesse.
Et du coup, moi j'étais presque un peu obsédée par la machine à côté qui indiquait en fait au niveau de ses inspirations, expirations, si elle allait vraiment au bout de son inspiration et au bout de son expiration. C'était assez stressant et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec une de mes tantes parce que quand j'ai dû rentrer à la maison, pareil, je suis rentrée à la maison mais j'avais pas de bébé. Quand j'étais sur le chemin de l'hôpital, pour aller la voir, je pleurais et puis il y a une de mes tantes qui m'a dit « Alison, arrête de pleurer. Tu sais, ta fille, elle sent tout ce que toi tu ressens, c'est comme si elle était connectée à toi et il faut pas qu'elle soit connectée à ta tristesse. Là, elle a besoin de se battre et tout. Non, tu ne pleures pas. » J'ai dit, ok.
Toi qui travailles actuellement, parce que tu es aussi... Tu es aussi accompagnante, du coup, qu'est-ce que ça te fait de manière rétrospective de pouvoir refaire ce film-là quand on te parle de ton émotion qu'on doit brider là, à ce moment-là, toi ?
Eh bien, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que c'était n'importe quoi ? parce que ce n'est pas parce que je pleure, c'est parce que je suis triste de ne pas avoir mon enfant avec moi que... Derrière tout ça, il n'y a pas autant de force et de courage
tout à fait.
Vis-à-vis de la situation, en fait.
Mais sur le moment, comment tu as assumé la chose qu'elle venait de te dire ? Qu'est-ce que tu as fait ? Quel a été ton comportement ?
Alors, en fait, j'ai fait ce qu'elle a dit. Pourquoi ? Parce que, c'est peut-être... Mais c'est des mères avant moi, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, toi, la génération où du coup, tu as la transmission et tu dis, ok,
c'est ça.
La maman me dit ça, donc en fait, c'est,
voilà,
je suis...
Elle doit mieux savoir.
Voilà, oui. Elle doit mieux savoir que moi, elle a l'expérience.
Exact. Et on m'a dit exactement la même chose vis-à-vis de l'allaitement après. Quand je suis rentrée à la maison et que j'allaitais ma fille, on m'a dit, il ne faut pas pleurer parce que ça fait tourner le lait.
Il y a beaucoup de croyances là-dessus. Oui. Voilà, ouais.
Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça où vraiment, j'ai beaucoup écouté. Mmh. Et donc, la dernière semaine, du coup, quand moi, j'étais à la maison et qu'elle était à l'hôpital, une des choses que j'ai trouvées relativement bénéfique, c'est que j'ai pu dormir. En réalité, pendant les deux premières semaines, comme elle n'était pas avec moi tout le temps, ça m'a permis quand même d'avoir un certain repos. Et quand je suis rentrée à la maison, j'étais reposée, en fait. C'est assez paradoxal.
Je trouve ça intéressant que tu en parles, parce que c'est de ce volet-là, on en parle très peu, sur le retour des parents chez eux avec les enfants qui sont en néonat. Donc, je trouve que c'est super intéressant.
Et du coup, je me souviens que la dernière semaine, c'est une infirmière, d'ailleurs une antillaise, ça m'a beaucoup marqué. À un moment donné, ma fille, elle allait mieux, elle avait plus la grosse machine qui allait sur le nez et la bouche, elle en avait juste une petite qui allait juste au niveau du nez. Un peu comme, comment on appelle ça? Vous savez, quand on va à l'hôpital, on vous met deux trucs dans le nez là pour vous aider à respirer.
Oui.
Je sais pas comment ça s'appelle,
oui.
Ce machin. Voilà,
l'oxygène, pour
même...
avoir un peu d'oxygène.
Voilà,
et voilà.
C'est ça, exactement. Donc, on lui a mis ça. Et à un moment, l'infirmière, elle me dit, allez-y, lavez-la. Parce que je peux la prendre. C'est votre bébé. Oui, mais jusqu'à maintenant, c'était un peu genre...
C'est un peu le bébé de l'hôpital, non?
Ouais, voilà, c'est ça. Genre, je pouvais pas trop la toucher. Personne m'avait dit que, en fait, je pouvais la bouger ou la prendre. Personne m'avait donné, entre guillemets, l'autorisation de pouvoir le faire, parce que en réalité, on était dans une pièce où il y avait... il me semble, et puis alors ça dépendait puisque je suis restée elle est restée deux semaines, mais il y avait un ou deux autres enfants dans la pièce et on était un peu toutes pareilles là à côté, on donnait juste notre main, on touchait la main du bébé ou on lui faisait des petites caresses de temps en temps, mais la prendre dans mes bras ou le non, la laver encore moins. Et donc au bout d'un moment, elle me dit allez-y, lavez-la. Ok, très bien.
Donc, c'est-à-dire qu'on veut te faire revivre tout le processus que tu aurais dû vivre juste après la naissance, c'est-à-dire la mettre sur ton ventre, l'allaiter, faire toutes les choses.
Voilà.
On te dit, allez maintenant, Robocop, vas-y, remets-toi dans l'autre sens et refais la phase. C'est-à-dire que là, je ne sais plus comment je dois faire et comment je dois être.
Et ton témoignage...
Je peux être même, c'est pas « doit ».
Et ton témoignage met en lumière aussi l'environnement néonat et un certain manque de prise en charge des parents.
La difficulté de la prise en charge des parents, qui est multiple aussi, qui est diverse en fonction du personnel sur lequel on tombe, parce que là, peut-être que cette dame, elle a pas, après toutes ces heures, elle a peut-être pas, anticipé émotionnellement comment ça pouvait se jouer chez toi. Il y en a d'autres qui le feront aussi très bien, mais pour toi, ça a été en tout cas un véritable choc de pouvoir laver ta fille, de pouvoir la toucher, de pouvoir être en lien avec elle. Et est-ce que, après ce choc, tu y es quand même arrivée? Quel a été ton ressenti par la suite, en fait?
En fait, moi, je l'ai perçue comme... parce que très peu de temps après, on nous a installés dans une chambre parce que c'était la veille et l'avant-veille du fait de rentrer à la maison. Et on m'a permis, en fait, de dormir avec elle. Dans une chambre, mais en fait, je me suis sentie poussée en fait à chaque fois. Donc, est-ce que sur le coup, j'ai capté, fait attention à ce que je ressens ou pas? Alors oui, je suis un peu perdue, mais la dame, elle me pousse quoi. Madame, vous n'avez pas le choix là. Vous allez devoir rentrer à la maison et il faut que vous preniez les choses en main en fait maintenant. Donc c'était un peu comme ça, et du coup c'est à ce moment-là que je lui ai donné le sein pour la première fois dans ces conditions. Ça s'est bien passé, un peu de douleur au début, mais ça va, ça s'est bien passé. D'ailleurs, de mes deux filles, c'est elle que j'ai allaitée et qui jusqu'à ses 2 ans et demi, parce qu'elle voulait pas lâcher mon sein, celle-là. L'autre, non mais je vous assure, même encore aujourd'hui, ma fille, elle va avoir 12 ans, ça lui arrive des fois de venir de chercher mes seins.
Oh, c'est alors, pas possible, ça, c'est vrai, hein, ils font tous ça. Non mais il faut qu'on en parle, il faudra faire une émission là-dessus aussi, parce que franchement...
Alors que la deuxième, très différent, elle, au bout de 6 mois, c'était fini. Elle avait terminé avec moi. Et donc ensuite, quand je suis rentrée à la maison, en fait, ça s'est très bien passé. J'étais très apaisée, mais je pense que parce que, genre, c'est comme si les choses, elles rentraient dans l'ordre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça y est, les choses reviennent à leur place. Cet épisode-là est terminé. On rentre à la maison et les choses vont se passer maintenant, vraiment. Et ensuite, une des choses qu'on m'a dit, mais même moi que j'ai senti, j'étais extrêmement sereine. J'étais très calme. Et ma fille était très calme aussi, d'ailleurs, à la maison. Et vraiment, ça s'est très, très bien passé après. Ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que pour elle, mais même pour la deuxième, j'ai beaucoup... j'avais beaucoup l'écharpe de portage. Et voilà. Je voulais beaucoup qu'elle reste en proximité de moi, très proche.
Est-ce que tu aurais un conseil éventuellement à donner peut-être aux mamans qui vont écouter ton témoignage et qui sont peut-être là avec leur bébé en néonate sur le pendant et l'après, en fait, par rapport à ce que toi, tu as vécu?
Alors, je dirais que pour le pendant, je pense qu'une des choses, c'est ne pas hésiter à poser des questions, à interroger. Je sais que, en tout cas, dans l'endroit où j'étais, il n'y avait pas forcément beaucoup de personnel et elles ne prennent pas forcément beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de bébés, etc. Mais autant pour elle en tant que maman que pour le bébé, ne pas hésiter à poser un tas de questions pour savoir, OK, elle est là, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui ne l'est pas, de façon à d'ores et déjà pouvoir créer ce lien et entre guillemets déjà se sentir, je vais dire, une maman utile, si je puis dire comme ça.
Trouves ta place.
Exactement. Parce que oui, je suis sa maman. Oui, je suis là et je lui donne toute l'énergie et l'amour que je peux lui donner, mais je me sentais pas de la toucher, de la prendre ou quoi, parce que j'étais vraiment beaucoup dans la crainte. Et du coup, l'idée, c'est de ne pas hésiter à poser des questions pour savoir ce qui est possible de faire ou pas. Et je pense qu'en vrai, chacune des mamans, et surtout dans cette situation, on a beaucoup de craintes et on fait vraiment attention à l'autre. On fait vraiment attention à ce petit être et qu'on peut s'autoriser à faire des choses tant qu'on le sent, en fait, je pense. Ouais.
Merci beaucoup pour ce retour. Ça va être la fin, hein ? Faut arrêter de nous parler, là, Alison. Non, on était très contente de te recevoir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Alison, pour ton témoignage.
Voilà, pour cette reprise aussi sur la pause maternelle. Vraiment, c'est toujours un plaisir de recevoir vos témoignages, quels qu'ils soient. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On se retrouve tous les premiers lundis du mois de 10h à 11h sur Caladma Radio. Et en attendant, vous pouvez nous envoyer vos témoignages donc à l'adresse mail de l'émission lapausematernelle@outlook.fr. Bon, merci Alison. Je te souhaite une très, très bonne journée. Bonne journée, Elodie.
Bonne journée, Lucie.
Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de notre aide, de notre accompagnement, le compte d'Elodie Doucela est ouvert sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Elle est partout, cette dame. Et moi, sur Facebook et sur LinkedIn, parce que je suis un petit peu plus discrète. Et mon cabinet est également ouvert si vous avez besoin d'être accompagnée de manière particulière, en présentiel ou alors en visio pour plus de discrétion. Sur ce, bonne journée et au mois prochain.
Bonne journée et au mois prochain. La pause maternelle.